Chers amis, bienvenue à l'écoute du dernier passage de la vie de saint François. Dans un petit couvent de Sienne, François est de nouveau alité, malgré l'air balsamique de la contrée et le génie du fameux oculiste. Un cortège d'admirateurs défilait pour le voir et le toucher. Pauvres et riches, illettrés et savants. Il y avait là aussi un dominicain qui lui posa une question insidieuse. La réponse du saint l'étonna si fort qu'il s'écria : la théologie de cet homme est comme un aigle, tandis que notre science rampe sur la terre. Une nuit, le petit couvent fut sans dessus-dessous. Une clameur. Notre père François se meurt. Il meurt. Il crache du sang. Au secours! Une plainte d'agneau égaré. Dans la cellule où tombait le clair de lune, tous se pressèrent pour le contempler une dernière fois et recevoir la bénédiction de son regard, sinon de sa main. Il geignait, étendu sur la paillasse. Un visage émacié, pâle comme cire, ou brûlé des yeux rougis, les grandes cicatrices de la cautérisation sur son front et de sa bouche un peu de sang coulait encore dans sa barbe. Il les regarda, sachant pourquoi ils étaient venus, sourit doucement, puis dit au frère prêtre d'une voix rauque et voilée : je bénis tous mes frères, présents et à venir, et en signe qu'ils se souviendront de ma bénédiction et de moi, ils s'aimeront les uns les autres comme je les ai aimés. Ils obéiront toujours à Dame Pauvreté et se montreront respectueux envers les prêtres et notre mère la Sainte Église. Ses yeux se fermèrent un instant, puis il murmura : faites venir frère Élie, je veux être enterré à Assise. De nouveau, un petit cortège traverse le pays, mais cette fois, frère Élie l'accompagne. Léon, Ange, Ruffin et Massé portent François sur un brancard. L'hydropisie enfle ses membres inférieurs. Il tient la main d'Élie et dit de temps en temps : merci d'être venu si vite. Je veux mourir dans Assise, afin que, par reconnaissance pour elle, frère Corps devienne un morceau de sa terre. Et pour que nous puissions bâtir sur votre tombeau une belle basilique, songe Élie. Cette pensée le rend prudent. Il fait un grand détour par les bois et les montagnes pour éviter Pérouse, dont les habitants seraient capables de garder le saint dans leur ville afin de l'y enterrer. Une relique pareille, c'est pour une ville une bénédiction éternelle. En esprit, François voit la contrée qui lui est si chère, la vallée, la petite ville blanche, Saint Damien, Notre-Dame des Anges. Il voit passer sa vie. Elle a été si remplie. Et pourtant, soupire-t-il, j'eusse dû et pu faire davantage. Pour plus de sûreté, Élie fit venir d'Assise, pour escorter et défendre le corps de François, des soldats armés jusqu'aux dents. Une centaine de gendarmes. Ce fut au mois d'août que, par un sentier solitaire de la montagne, ils entrèrent dans Assise. Le peuple délirait de joie, d'autant plus que le bruit courait que ceux de Pérouse avaient eu l'intention d'enlever François. La foule était sur les toits et une pluie de fleurs tombait sur le passage du mourant. Monseigneur l'évêque, qui jadis l'avait abrité nu sous son manteau, vint en personne le saluer et baiser sa bure. « Laissez-moi l'honneur de l'héberger, dit-il, et on porta François dans le palais. « Non, non, à Notre-Dame des Anges, supplia François, je veux mourir là où j'ai commencé. »« Naturellement, dit Élie, mais pas encore maintenant. La foule vous retient par crainte de ceux de Pérouse. Nous devons d'abord nous entendre avec le conseil de Pérouse. » On porta François dans une belle chambre où il y avait un petit autel. Il y fut couché dans un lit bien frais. Le maire, en l'apprenant, grinça des dents de rage et de jalousie, car il avait été excommunié parce qu'il avait défendu aux habitants tout commerce avec l'évêque à cause d'une querelle pour quelques mètres de terrain. Du cuir doré, des tapis, des tentures. François ne pouvait s'empêcher d'en rire. Frère Cor aurait bien préféré un lit de feuilles dans un trou. « Écoutez maintenant, dit François, haletant, à Léon et Ange. Tandis que je songeais à cette triste querelle, dans la ville contre Monseigneur, j'ai composé une nouvelle strophe pour notre cantique du soleil. Loué sois-tu, Monseigneur, pour ceux qui pardonnent par charité et souffrent l'injustice, la maladie, les griefs et les misères. Heureux ceux qui les portent en paix, car tu leur donneras là-haut l'éternelle couronne de lumière. » Et quand il eut chanté cette strophe, il dit, « Ajoutez-la au cantique du soleil, apprenez-la par cœur, et vous irez trouver le maire et les riches de son parti. Vous leur direz de ma part d'aller au palais. Quand ils se trouveront devant l'évêque, commencez à chanter le cantique en y ajoutant cette nouvelle strophe. J'enverrai Massé au chez Monseigneur. » Le lendemain, François entendit dehors une grande rumeur. « Belle cité, bonne cité, dit-il. Hélas, la voici déchirée de disputes pour une poignée de terre. Seigneur, que mon chant fasse fondre l'obstination de leur cœur. » Au palais aussi, il entendait plus de bruit que de coutume. Comment cela va-t-il finir? Massé observait derrière les petits carreaux en cul de bouteille et tenait François au courant. Il entrebâilla la croisée et dit « Voilà le maire qui arrive avec tous les riches. » Le peuple criait, jubilait. « On acclame le maire, dit Massé. Mais pourquoi s'arrête-t-il? Et je le sais. Voici Monseigneur qui va à leur rencontre, en grand apparat, suivi de tous les chanoines. Nouvelles acclamations du peuple. » « Et ce silence subit ?» questionna François. « Oui, ils sont arrêtés les uns en face des autres. Voilà Ange et Léon. Léon leur dit quelques mots et montre du doigt votre chambre. La foule tourne la tête dans cette direction. Écoutez, ils vont chanter. » Toute la place tomba dans le silence d'un ordinaire après-midi d'été. Et du silence montaient les belles voix d'Ange et de Léon, qui chantait le cantique du soleil. J'en vois qui pleurent et joignent les mains, dit Masséo. Les voix sonnaient comme deux cloches, une lourde et une légère. Regardez, le maire se met à genoux. Monseigneur le relève et lui parle. François ne pouvait entendre la suite des explications à cause du bruit formidable des acclamations qui déferlaient contre les façades. François connaissait ce bruit. Les mains jointes, il dit en pleurant, « Merci, Seigneur, pour la paix que vous avez apportée à ma bonne ville. » La paix. Mais pour ramener la paix dans l'ordre de la pauvreté, nulle recette n'existe, nulle chanson ne suffit. Chaque jour, il apprenait des frères ce qu'il savait. Il n'aurait pas dû lui en parler, de tout cet orgueil qui régnait, de cette ambition des hauts emplois. Ils auraient dû lui épargner ce dernier chagrin. Mais le moyen de s'en taire quand on en souffre tant. Là-bas, pensait-il, ils n'attendent que ma mort pour se lever comme des loups. « Frères, répétait-il souvent à ses compagnons fidèles, nous devrions pouvoir recommencer avec des frères qui ne désirent que la pauvreté et qui se tiennent pour les moindres des hommes. Oh, si je pouvais recommencer, si je pouvais aller au chapitre !» Mais son bras retombait inerte. « Trop tard. Peut-être est-ce ma faute. Je n'aurais pas dû passer les rênes à d'autres. Peut-être Ai-je trop compté sur Dieu sans y mettre assez du mien? Lâcheté peut-être de ma part plutôt que confiance. Quand quelqu'un se noie, puis-je dire « Dieu le sauvera » au lieu de le retirer moi-même de l'eau? Paresse peut-être, égoïsme. La nuit, au milieu des douleurs croissantes, quand les ténèbres amènent l'angoisse et doublent la peine, il lui arrivait de se dresser sur son séant et de crier, les bras au ciel. « Où sont-ils, ceux qui m'ont enlevé mes agneaux ?» Quelquefois, ses parents et son frère Angelo venaient le voir. Alors il retenait ses gémissements et ses soupirs, à faire croire qu'il n'était tendu là que pour son plaisir. Il ne voulait point être consolé par eux, mais les consoler. Et cela réussissait. Souvent, il faisait porter à Claire des billets pour lui dire qu'il viendrait bien encore lui rendre visite. Frère Égide vint et lui demanda qui il pourrait indiquer pour lui succéder. « Personne, dit François, car il doit être humble, fort, pauvre, modeste. » Et sans y songer, il traçait là son propre portrait, le contraire d'Élie. Et pourtant il bénissait Élie quand celui-ci lui rendait visite. Il y avait dans cet homme quelque chose qui l'attirait, qui le rendait petit, anxieux et ensemble heureux. Explique cela qui pourra. Messire Géant, le nouveau docteur, un vieil ami de François, un petit homme malin, venait de l'ausculter encore. Son diagnostic, hydropysie, ulcère gastrique, splénite, entérite, conjonctivite, etc. Assez pour abattre 10 débardeurs. Le docteur lui-même en était stupéfait. « Qu'en pensez-vous, Géant ? » demanda François. « Si Dieu nous aide, nous pouvons vous guérir. Je ne l'ignore pas plus que vous. » Et le saisissant par le poignet, il lui demanda « Combien de temps ai-je encore à vivre ? Dites-le. Vous savez que je ne suis pas un lâche. Je ne crains pas la mort. » Le docteur hésita un peu, mais François le tenait. « Peut-être jusqu'à la fin de septembre ou au début d'octobre. » Et avec un soupir de joie, François retomba en arrière et levant ses mains enveloppées de pansements, il chanta, rempli d'un grand bonheur, « Sois la bienvenue, ô ma sœur, la mort !» Et Masséo dit, « Père, toute votre vie a été une lumière et un miroir. Réjouissez-vous donc aussi à cette heure, afin que votre mort comme votre vie soit un souvenir salutaire pour les hommes. » Voilà une belle consolation. Il fallait être le royal Masséo pour être capable de lui dire des choses si pures et si lumineuses. Toute inquiétude quitta François. Il ne devait plus penser à ceux qui n'avaient pas réussi. La vie était passée. Il n'y avait plus rien que la mort, la belle mort libératrice. Il se livrait librement à elle et à Dieu. Ange et Léon durent entonner le cantique du soleil. Ils le firent la main dans la main en pleurant. Il écouta avec des yeux reconnaissants et à peine eurent-ils terminé que, levant les bras, il chanta d'une voix faible mais très distincte « Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur la mort corporelle. Nul qui vit ne lui peut échapper. Malheur à qui meurt chargé de péchés mortels. Heureux ceux qui accomplissent ta volonté dans leur cœur. La seconde mort ne leur nuira point. » Tout s'embellissait sous la puissante lumière de son âme. La vie, la terre, les choses, la mort. Il attirait la mort par son chant. À son chevet, des frères sanglotaient de célestes attendrissements. Pérouse ne bougeait point, et le maire d'Assise donna à Élie l'autorisation de transporter François à la Portioncule pour y mourir, à condition que le cadavre serait enterré à Assise. Cela était conforme au plan d'Élie. Il savait déjà où se dresserait la future basilique, à l'angle extrême de la ville, comme un défi en face de Pérouse. Pauvre François, il ne demandait lui qu'un tout petit coin de terre et une petite croix au-dessus de frère Cor. C'était à la fin de septembre, quand tout est poudré de soleil et que la terre est par moments si bonne et silencieuse. Le soleil tisse des fils de la Vierge avec des fines brumes bleues et la terre baigne dans une lumière de vin doré. C'était dans la matinée. Sur un brancard, quatre frères portaient François à Notre-Dame des Anges et beaucoup de frères le suivaient devant la foule en dévote procession. Le soleil versait de l'or dans les rivières. « On dirait qu'il fait beau temps, » dit François. Il ne voyait plus que de vagues lueurs. « Très beau, » dit Massé, au qui tient un bras du brancard. « L'aspect du jour est comme un manteau royal, et la rosée scintille partout au soleil. « Chantons encore, » demande François, « le cantique du soleil. » On l'entonne, François sourit, comme le voilà changé. Ses yeux sont deux flammes rouges dans sa face maigre et cireuse. En chantant, on marche vers l'endroit où il veut mourir. Les raisins sont mûrs, partout dans les vignes pendent les nobles grappes, prêtes pour la vendange. Le chemin serpente à travers champs. Parvenu à la vieille chapelle des lépreux, François demande « Ne sommes-nous pas près de la chapelle ?»« Ah, comme cela est bien ! C'est là que je me suis vaincu d'abord en embrassant un lépreux. » D'ici, on a une belle vue sur la ville, je m'en souviens. Tournez-moi le visage vers Assise. Je ne la verrai plus. Je veux bénir une dernière fois ma belle cité, ma bonne ville. » On tourna le brancard. Léon et Massé relevèrent François. Ses yeux cherchaient Assise, mais son cœur seul encore la voyait. Là-haut, la ville étincelle comme d'ivoire au soleil. En un rapide éclair, toute sa vie passe. Ces années de troubadour, l'attirance divine, les lépreux, l'ami, la grotte, la croix, le petit curé, sa mère. Chanter, bâtir, prêcher, Claire, les frères, les œuvres. Et l'ineffable amour du coin natal qui rend heureux et triste à la fois le domina. Il trembla, des larmes coulèrent dans les rides rouges, à côté de la bouche, et d'un grand signe de croix vers l'Orient, il bénit sa ville. Seigneur, jadis l'impiété habitait Assise, mais dans votre bonté, vous eûtes pitié d'elle. Votre seule bonté a fondé ici notre maison mère, d'où votre nom glorieux et le parfum de votre sainte vie, de l'évangile véritable, rayonne sur tout le peuple chrétien. Je vous prie, Jésus-Christ, Père des miséricordes, ne considérez pas notre ingratitude, mais souvenez-vous de l'immense bonté que vous avez témoignée à cette ville. Qu'elle soit la demeure de ceux qui reconnaissent votre nom glorieux, loué dans les siècles des siècles. Amen. Le soleil brillait au-dessus du mont Subasio et dardait ses rayons sur la blanche Assise. Les frères et la foule étaient agenouillés, le regard vers la ville. François s'affaissa, las et heureux. On le reposa prudemment, on tourna le brancard et le cortège se remit en marche. Il avait béni sa ville, son pâle visage souriait et beaucoup de gens se retournèrent encore vers Assise, comme si sur la ville et sur eux était descendu quelque chose de beau et de grand. Comme il est couché, là, sur son gras bas de feuilles, il peut voir facilement l'intérieur de la chapelle et assister à tous les offices. Frère Genièvre et frère Jacques prient à genoux devant l'autel et tournent la tête quelquefois comme des enfants vers leur mère. La chenée, l'automne l'a convertie en un bois d'or. Les feuillages jaunis pendent, gluants de soleil. Le soleil entre dans la cabane, glisse sur le corps de François. Le soleil fait ce qu'il peut pour consoler son ami et lui être agréable. Sur une petite table, il y a du melon, du poisson, des fruits, des gâteaux, petites gourmandises inutiles promises à frère Cor. Léon, au chevet du mourant, lit dans un livre d'heures et Élie cherche parmi les fioles un calmant. De temps en temps passe un frère qui jette vers l'intérieur un regard respectueux et anxieux. C'est la tente de la mort. Elle ne viendra pas tout de suite. Mais l'huile de la lampe est épuisée. Ce n'est plus que la mèche qui se consume elle-même. Ruffin entre et vient s'asseoir près de François. Il lui apporte les compliments de Claire et demande la réponse qu'il doit apporter. François retire de sa manche sa main enveloppée de linge et, un doigt sur la main hâlée de Ruffin, il dit « Écris à la Sainte Sœur que je ne la verrai plus, mais que je lui envoie ma bénédiction. Dis-lui de déposer tout souci et chagrin. Elle ne peut plus venir me voir, mais avant qu'elle meure, elle et ses sœurs me verront, et ce leur sera grand soulace. Quand je serai mort, on passera par Saint-Damien pour transporter mon cadavre. » Ruffin partit. Léon, dit le saint, va trouver Ange et venez chanter une dernière fois le cantique. Au moment où la douleur se relâchait un peu, François dictait son testament, qu'Angelo écrivait sur parchemin, tandis que les autres écoutaient, recueillis. C'était l'histoire de sa propre âme, son goût de l'Évangile, son amour du Très-Saint-Sacrement, son désir de pureté, sa ponctualité dans l'observance de la règle et sa prière pour la fraternité, la paix, la pauvreté, la charité. C'était une façon d'Évangile. À chaque ligne nouvelle, les frères se regardaient avec joie. Ah, c'était le matin qui revenait avec toute sa fraîcheur et ses parfums de violette. C'était une source pure où ils pouvaient boire à longs traits, une atmosphère céleste où leur âme pouvait monter et planer librement. Un seul frère ne bougeait point, pareil à un poteau de bois, Élie. François s'éveille quand pointent déjà des étoiles dans l'air doux. Ange, ange, ange est assis à ses côtés. Écris à dame frère Jacqueline que je mourrai bientôt et que si elle désire me revoir encore, elle doit se hâter. Demande-lui d'apporter mon suaire et de ces gâteaux d'amandes que j'aime tant. Tandis qu'ange écrit près de la petite lampe, frère Genièvre vient annoncer. Père, il y a là une riche dame avec ses deux fils et beaucoup de nobles. Elle dit être frère Jacqueline, dont vous nous avez conté tant de belles choses. Mais dame Jacqueline est une femme, je ne l'ai pas laissée entrer. François releva la tête. Frère Jacqueline, qu'elle entre tout de suite, cette femme est un de nos frères. Soudain la cabane s'emplit de nobles, et il faut voir comme Élie s'incline, sourit, fait l'aimable, se dépense. Frère Jacqueline entre, vêtue de soie noire. Ange lève la lampe sur le visage de François. Elle est saisie, mais ensuite elle se penche. Son cœur bat de pitié et d'affection. Elle s'agenouille, baise les mains et les pieds blessés, verse des larmes de vénération sur le sang des bandages. « Je venais de vous écrire, dit François. Et moi, j'ai eu la semaine dernière un songe qui m'ordonnait de venir, que vous désiriez la bure et les gâteaux. La bure, je l'ai tissée de la laine de cet agneau que vous m'avez donné un jour. » « D'où, frère Jacqueline ?» Et il regarde avec un sourire la bure et le linceul, et les gâteaux qu'elle sort d'une boîte en cuir. Il en prend un dans ses deux mains et en mange. Mais il ne retrouve pas l'ancienne saveur. Son palais n'a plus de goût. Frère Anne est bien usé. Bernard doit manger les gâteaux. « Je vais mourir, frère Jacqueline. Vous resterez ici à Notre-Dame-des-Anges jusqu'à ma mort qui ne tardera guère. Frère, chantons pour frère Jacqueline le cantique du soleil. » Et ils le chantèrent avec la bienvenue à la mort. Élie ne chantait point. Dame Jacqueline était secouée de sanglots qu'on entendait à l'extérieur. Le 1er octobre, il manda tous les frères du couvent et les bénit un à un. Quand Bernard se présenta, Il lui mit la main sur la tête. « Je désire et ordonne que tous les frères honorent frère Bernard comme moi-même, car il fut le premier à venir à moi et à distribuer ses biens aux pauvres. Et je bénis tous les frères qui viendront jamais autant que je peux et davantage demeurer fidèles à Notre-Dame des Anges. C'est ici que Dieu nous a allumés à son feu. Si l'on vous chasse par une porte, rentrez par l'autre porte. » Tout à coup, il dit, « Lorsque vous verrez venir ma dernière minute, couchez-moi nu sur la terre nue. C'est ainsi que je veux mourir. » Le vendredi fut un jour de souffrance, un dernier assaut de la douleur. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, ses épaules étaient secouées convulsivement. Parfois quelques paroles. « Je vous pardonne à tous. Vous devez préférer l'Évangile à toutes les règles et prescriptions. » Il se fit apporter le Saint-Livre et lire l'Évangile du jeudi. « Ce n'est pas jeudi aujourd'hui, » dit Élie, « mais vendredi. » »« Cela ne fait rien. Je croyais qu'il était jeudi. Lisez. » Léon lut. Tous l'écoutèrent debout. Il fit apporter du pain, le prit avec des gestes de respect, le baisa et le bénit. Il voulut le rompre, mais la force lui en manqua. Masséo le fit à sa place et tendit un morceau à chaque frère. C'était un calme soir d'octobre, avec une odeur de nature mourante. L'odeur des chênes surtout est forte à cette époque de l'année. Il haletait doucement et essayait de fixer ses yeux tuméfiés sur la lumière du cierge. Un samedi rempli de soleil. Par tous les chemins, on voyait les gens descendre vers Notre-Dame des Anges. À l'entrée du docteur, François avait demandé « Quand va s'ouvrir pour moi la porte du ciel ?» Et le docteur avait répondu « Aujourd'hui. » Élie avait alors fait porter la nouvelle à Assise et le peuple accourait. Les vignerons abandonnaient la vendange, les cordonniers leur haleine. Les aubergistes bouchaient la bonde. Le soleil allait descendre. Les ombres s'allongeaient. Une buée bleue grandissait sur l'horizon. Dans la cabane, il commençait à faire obscur. Les arbres semblaient attentifs et les deux cierges aux côtés de François devenaient plus lumineux. Il regarda encore une fois les nombreux frères avec tant d'affection et de bonheur et il joignit les mains. Il fit un signe de tête qu'ils comprirent. Ils le dévêtirent et le couchèrent nu sur la terre nue. De sa main gauche, il cachait la plaie de son cœur. Il gisait là, plus pauvre que pauvre, vêtu de ses seuls pansements d'où le sang suintait. Répandez des cendres sur frère corps. Ils répandirent des cendres. Chantez maintenant. Et de nouveau, Ange et Léon entonnèrent le cantique du soleil. Les gens qui se trouvaient de l'autre côté de la haie entendirent et sanglotèrent. Les frères aussi, de bonheur autant que de chagrin, et ils tombèrent à genoux. Puis le silence régna, un silence si étrange. Maintenant la mort va venir. Dans un tel silence, il faut que la mort vienne. Soudain, il écarquilla les yeux, se redressa, appuyé sur le coude gauche, et cachant de sa main gauche la plaie du cœur, il chanta avec une force extraordinaire, d'une voix jeune et pleine, comme jadis sur la montagne. Le sang lui coulait des yeux, mais il chantait. « De ma voix je clame vers le Seigneur, de ma voix je supplie mon Seigneur. Devant sa face je répands ma plainte, et je montre à ses yeux mon besoin. Tandis que mon esprit étouffe sous la douleur, vous connaissez toutes mes voies. Sur le chemin où je chemine, ils m'ont tendu des raies cachées. J'étais en méditation et personne ne me connaissait. Ils ont coupé ma fuite et il n'est personne qui se soucie de ma vie. Vers vous je crie, ô Seigneur, vous êtes mon espoir et mon tout sur la terre des vivants. Écoutez mes soupirs car je suis profondément humilié. Sauvez-moi de mes persécuteurs car ils sont plus forts que moi. Délivrez mon âme de sa prison, afin qu'elle loue votre nom. Les justes m'attendent jusqu'à ce que vous m'accordiez la récompense éternelle. » Silence et l'écho dans la cabane. Le coude fléchit et François se laissa retomber, un sourire sur ses lèvres d'un violet pâle. Les yeux rougis se fermèrent lentement. Une grande blancheur parut sur le maigre visage. La main se détacha de la plaie du cœur. Cette plaie était comme une belle et fraîche rose rouge. Les frères restèrent à genoux, en larmes et en prière. Tout à coup, sur le toit, éclata le grisolement de milliers d'alouettes qui, comme si elles s'étaient donné le mot, montèrent toutes à la fois, gerbes de fusée dans le ciel. Les premières étoiles parurent au firmament. Un peu de lumière rose traînait sur assise, blanche avec ses noirs cyprès tout là-bas. Le soleil avait plongé, pareil à un poisson d'or. Chers amis, ici se termine l'ouvrage de Félix Timmermans, La harpe de Saint François. Thank you.